Isabelle Maurer vient de Mulhouse et en collaboration avec l'auteur-journaliste Julia Pavlovitch-Beck a sorti un livre coup de poing, Je ne baisserai plus les yeux. Elle y raconte avec ferveur son enfance, son adolescence pleine d'espoir et son désenchantement d'adulte face à la difficulté d'élever seule ses trois enfants dans notre société dans laquelle nos gouvernants ont quelque peu oublié que les petites gens, comme elle le rappelle souvent, sont le moteur économique et social au quotidien. Isabelle Maurer n'a jamais baissé les bras et son engagement au service des autres et dans le monde associatif fait d'elle le symbole du tout est possible pour vivre mieux, à condition de se battre sans relâche pour faire comprendre qu'il serait temps pour les instances politiques qui nous gouvernent de relever les manches et de mettre les mains dans le cambouis pour que cesse toute précarité. Isabelle Maurer a un franc-parler qui met des gifles. Et pour preuve, le jeudi 10 octobre 2013, elle a crevé littéralement l'écran dans l'émission « Des paroles et des actes » animée par David Pujadas sur France 2. Elle avait en face d'elle Jean-François Copé, qui était alors le président de l'UMP. Elle l'a interpellé, coupé et repris pendant plus de 10 minutes en direct. Isabelle Maurer était invitée dans le cadre du 14e Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale organisé par l'association Colère du Présent. Et avant de la retrouver en interview, on écoute quelques extraits de cette émission pour recontextualiser les faits.
Je me suis rendu compte, en venant vous voir à la télé, que j'avais effectivement un énorme classeur et que je plains la personne qui va s'occuper de mon cas à la retraite, si j'ai la chance de vivre jusqu'à la retraite. Mais j'avais plein de choses à vous dire. Je ne suis pas venue de Mulhouse pour juste vous souhaiter le bonsoir. Je voulais vous dire que les Français, ils vous regardent, ils vous écoutent. Et malheureusement, il y a beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes.
Alors, si sur la recherche d'emploi, madame, voilà. Et sur les règles d'indemnisation, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean-François Copé?
C'est scandaleux ce que vous voulez nous dire. Parce que quand on vit, on survit, monsieur Copé, avec le peu qu'on ose nous donner. Bientôt, on pourra plus payer un morceau de savon pour se laver. Il faudrait encore que je dise merci. Moi, j'ai fait des enfants, monsieur Copé, pour qu'ils aient du boulot, pour qu'ils aient un avenir. Parce que mon Alsace, il y avait DMC, il y avait Manurin, il y avait Clemcy, il y avait la SNCF. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, de personnel chez moi, c'est l'hôpital. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que les gens sont malades et n'en peuvent plus. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de me préparer pour vous parler calmement, mais je suis vraiment désolée. Ce soir, je ne peux pas être calme.
Est-ce que vous avez une question précise?
Une question précise. Est-ce que si je vous disais à vous, monsieur Copé, demain, on vous enlève pendant 6 mois à la moitié de votre allocation. Alors, moi, si je suis là ce soir et si je suis fâchée, M. Copé, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on me promet que demain sera meilleur et il n'est pas meilleur et il y a toujours plus de chômage. Remettez peut-être l'humain au départ de la chose et vous verrez, alors, nous irons beaucoup, beaucoup mieux.
Jean-François Copé vous répond peut-être sur la question de l'indemnisation.
Enfin, ce n'est pas seulement là-dessus, parce que ce que vous dites, madame, je le comprends d'autant plus que... Étant maire d'une ville...
Vous ne pouvez pas le comprendre, excusez-moi, parce que quand on survit avec 470 € par mois, ce n'est pas vrai. J'ai un loyer plus haut, je suis en Banque de France, je pourrais y aller pleurer. Alors vous ne pouvez pas comprendre ma
alors
situation.
Alors il dialogue avec vous, il vous répond.
Non, non.
Mais madame, vous savez, l'intérêt c'est...
Personne ne peut comprendre mieux que moi, il faut le vivre. Donc moi j'invite M. Copé, s'il veut... Il vient une semaine à Peugeot avec mon fils, il va voir comment on se débrouille à Peugeot et s'il pensera réellement qu'on peut travailler jusqu'à 63 ans. J'aimerais bien voir,
vous.
Monsieur Copé, un de nos élus aujourd'hui, qu'il soit maire, qu'il soit sénateur, député, ce que vous voulez, commencer à prendre des décisions, se lever le matin et se laver la figure en se disant « je vaux 470 € parce qu'on en a décidé pour moi ». Alors maintenant, moi, je vais vous dire, si je devais me retourner voter, je voterai pour une personne qui est sur le terrain tous les jours, qui se lève à 6 heures, qui prendra le métro, le train, le bus, qui aura le courage de se lever et d'aller travailler pour le SMIC, parce que même ceux qui sont au SMIC s'en sortent pas. Donc comment voulez-vous encore vouloir encore enlever à ces pauvres gens qui n'ont déjà rien? Monsieur Copé, à un moment donné, il faut rester digne.
Mais madame, arrête.
Vous
mais
étiez
madame,
là avant, je suis désolée, ça fait 40 ans que j'attends, que je dis à mes enfants, demain ça ira mieux, mais ils commencent à me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, maman, faut boire un coup, faut arrêter, ça va jamais mieux. Vous allez au Pôle emploi, nous sommes peut-être 6 ou 7, je sais pas par Pôle emploi combien de personnes nous sommes. Il y a peut-être 2-3 annonces et il faut être ou qualifié ou pas du tout. Et on vous dit encore, quand ils sont bien gentils de vous parler, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps et vous devez rentrer dans ces petites cases et vous n'y rentrez jamais, enfin ce qui est mon cas en 40 ans, on vous dit à combien estimez-vous le salaire qu'il vous faut? Il faut encore que je me rebatte, M. Copé, pour leur dire, il y a le SMIC qui a été instauré, j'aimerais au moins me bouger pour ça. C'est pas grand-chose, c'est au moins ça. Alors je suis vraiment désolée, il faut arrêter. Aujourd'hui, l'Alsace, elle souffre et il n'y a plus rien. Et on dit, oui, les jeunes ne veulent pas aller bosser, M. Copé, mais faut leur trouver du travail. Il n'y a plus d'usines, vous en avez fermé 1254. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
On retrouve à présent Isabelle Maurer sur le Salon du Livre où on aborde évidemment cette fameuse émission. On évoque également avec elle l'histoire de son livre qui reflète l'extrême lucidité avec laquelle elle analyse notre société.
Et bonjour, c'est une très jolie journée. J'espère que tout le monde a trouvé de quoi lire.
Alors je suis très content de vous rencontrer pour parler de votre livre « Je ne baisserai plus les yeux » avec évidemment la collaboration avec Julia Pavlovitch-Beck. Alors d'abord, première question, comment s'est faite ces collaborations pour écrire ce livre ?
J'ai eu la chance d'aller à la télé. J'avais été une première fois pour défendre le RSA, pour expliquer que c'était très compliqué et qu'il fallait se sortir de la tête que c'était facile d'avoir des aides sociales aujourd'hui en France et qu'il fallait les mériter comme tous méritent, partout et tout le temps. Et de ce fait-là, je me suis retrouvée à défendre les chômeurs, parce que chez nous, il y en avait plein à Mulhouse, mais c'est très difficile pour un homme de dire aux autres qu'il est au chômage, parce que dans cette société-là, on ne vit qu'à travers son travail, on ne vit pas à travers son bénévolat, on ne vit pas à travers ses bonnes actions. La première des choses, quand vous vous rencontrez, quand vous voyez quelqu'un, la première des choses, on dit « qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu travailles ?» On ne demande pas « tu vas bien ? Est-ce que la famille va bien ? Est-ce que tout se passe comme tu veux ?» On te dit « qu'est-ce que tu travailles ?» Et c'est ça. Donc j'ai eu la chance d'aller à la télé. David m'a reçue comme une reine. France 2 m'a fait une très très jolie émission parce que je n'ai pas été toujours très gentille, très cordiale. Ils auraient pu couper une paire de fois. Ils ne l'ont pas fait parce que je pense qu'ils sont plus intelligents ou surtout très intelligents. Ils se sont dit à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'il y a des petites gens dans la vie. Et ces petites gens, elles font aussi que les petits ruisseaux deviennent de grandes, grandes choses et de belles choses. Donc j'ai eu la chance de faire cette émission et c'est comme ça que Julia, elle est venue vers moi parce que toute seule, je n'aurais jamais pu réaliser un si joli livre.
Alors donc, votre livre raconte évidemment votre parcours dans la vie, on va dire, comme un peu tout le monde. Et en même temps, on ne peut pas passer à côté. Vous venez de l'évoquer, vous avez eu cette émission de télé en 2013 où vous avez été face à face à Jean-François Copé. Dans l'émission des paroles et des actes, vous vous êtes montré assez brillante finalement devant lui, à tel point qu'il n'a pas su quoi répondre. Alors, vous pouvez peut-être me résumer un petit peu comment vous avez vécu, vous, cette expérience et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là sur le plateau. C'est là un peu où tout a commencé pour vous d'ailleurs.
Écoutez, je vais vous dire, moi c'était déjà une autre fois, un tout petit peu avant pour le RSA, mais je voulais absolument pas qu'on dise qu'à Mulhouse, personne ne prenne la parole et le défende, parce que c'est sûr que c'est très difficile, les situations qui sont vécues aujourd'hui, et j'avais besoin, je pense, au bout de 25 ans de bénévolat, de dire un peu tout ce que je voyais tous les jours, parce que je portais la misère du monde sur les épaules, et je la porte toujours, mais à un moment donné, il faut des moyens pour cette misère, et on peut pas la contrer si on n'a rien, et sans rien on fait rien, et je voulais surtout dire qu'ils avaient assez souffert et qu'ils avaient partagé tout ce qu'ils pouvaient se partager et qu'il était l'heure que les pouvoirs publics quand même se rendent compte qu'il ne faut pas toujours mettre un sparadrap. À un moment donné, le sparadrap, plus on le tire, il va craquer. Et qu'on est tous des êtres humains et qu'on a tous droit à un sourire. Donc je pense que c'est ça, que cette soirée a été très jolie. Et le comble du malheur a voulu qu'en même temps j'ai perdu un être cher dans la famille. Et j'ai dû faire un choix en me disant, est-ce que je vais à la télé ce soir-là ou est-ce que je vais à l'enterrement ? Donc je me suis dit que je lui devais au moins ça à celui qui nous avait quittés à ce moment-là. Le profond regret que j'ai, c'est que j'aurais voulu dire à M. Copé que j'avais rien particulièrement contre lui. J'avais quelque chose contre ma société, contre mon système qui marche pas bien pour les plus démunis. J'ai pas pu lui dire parce que mon taxi était déjà là et c'était l'heure de rentrer. Mais je vous garantis, ce serait été M. Hollande, ce serait été un autre politique. Je pense que ce soir-là, j'en voulais à la terre entière. Parce que la misère que j'ai encore croisée en arrivant à Paris, en voyant des gens sur les cartons, sur les trottoirs, je me suis demandé si on était en temps de guerre. Parce que c'est pas normal que quand on a tellement de richesses au 440, qu'on puisse aller jouer en bourse et cliquer, qu'on puisse pas penser aux gens qui ont faim et qui ont froid.
Votre prologue, vous dites « J'appartiens au monde des petites gens, à ces Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui doivent se priver de tout. Il y a eu un temps où nous étions respectés, aujourd'hui nous sommes oubliés. Ceux qui parlent, qui pensent et qui dirigent ne savent rien de nous. À votre avis, à quel moment ça a basculé d'être oublié après avoir été respecté ?
où on a été oublié, c'est quand les hommes d'affaires ont retrouvé leurs affaires, que la guerre avait permis à tout le monde de reconstruire, de refaire de belles choses, et là ils sont devenus très exigeants. Ils avaient juste oublié que la vie elle doit être jolie, que ça doit être un partage et pas seulement une histoire de profit, et que les gens venaient à bicyclette, ils avaient du boulot et ils étaient heureux de faire leurs 8 heures et ils n'avaient pas toutes ces machines modernes qu'il y a aujourd'hui. Et c'est peut-être à ce moment-là que ça a basculé, parce que quand on prend goût à la richesse, j'ai l'impression, on en veut toujours plus. Il faut qu'on mette de belles barrières, parce qu'à un moment donné, il faut se poser la seule question et l'unique question, c'est: je ne peux manger qu'un repas, je ne peux dormir que dans un lit et je ne peux rouler qu'avec une voiture. Et ça, la surconsommation et tout ça, il faut qu'on arrête. Et j'aimerais, si Dieu le permet, que j'ai encore énormément d'énergie pour dire à tout le monde la même chose. Il y a de belles voitures, il y a de beaux avions, mais on ne pourra pas plus que les remplir une fois, pas plus. Donc qu'on arrête de parler du verre plein, du verre à moitié plein, soyons solidaires et disons-nous à tous que je dois faire quelque chose pour l'autre. Et si chacun de nous fait quelque chose pour l'autre, moi je vous garantis que demain on ira beaucoup mieux.
On va parler un petit peu évidemment de ce que vous racontez dans votre livre et de votre période un petit peu. Bon, vous avez nommé un chapitre « Adolescence douce amère », mais moi j'aimerais quand même que vous reveniez sur votre rencontre avec le père Jules.
Alors ça, oh, c'était trop joli. Alors le père Jules, il a fait sa bonne action sans le savoir, parce qu'il a aidé mon papa à grandir, à devenir un homme, parce que c'est pas simple de devenir un homme, parce qu'il n'y a pas de vraie école pour devenir un homme, pour devenir un adulte ou une femme. Et quand je l'ai retrouvé plus tard, quand mon papa était presque en fin de vie et qu'il n'en pouvait presque plus lui, et papa Jules également, j'ai trouvé que c'était vraiment un joli retour des choses. Alors souvent, on doit le faire, ce retour des choses, je pense, instinctivement, mais moi, j'ai vraiment pu le mesurer, parce que c'est mon papa qui me l'a fait rencontrer, alors que je ne le connaissais pas. On n'a pas eu besoin de se parler longtemps, on n'a pas eu besoin de se connaître beaucoup. Tout de suite, ça a été une symbiose, et j'ai adoré ce moment-là. Et je peux vous dire que tous les matins, quand je suis un peu triste, que je me lève en me disant comment je vais régler ce dossier, comment je vais trouver une solution à cette famille, comment je vais trouver à manger pour cela, comment je vais trouver des habits, comment je vais trouver une paire de chaussures, est-ce que je vais trouver un médecin pour quelqu'un, est-ce que je vais pouvoir faire une bonne action aujourd'hui. Je me dis, lui, il n'aurait pas arrêté. Il était à la Manurin, il était dans une entreprise qu'il adorait, même que ce n'est pas toujours florissant et que ce n'est peut-être pas la meilleure parce qu'il faisait beaucoup de machines-outils qui aujourd'hui malheureusement n'existent presque plus. Mais il avait tous les jours le sourire en partant au boulot. Et chaque jour que moi j'ai eu à vivre avec lui, il me parlait de ses collègues de travail, de son travail, de la fierté qu'il avait à être français. Je peux vous garantir qu'il m'a fait de belles choses et qu'il m'a offert de beaux, beaux cadeaux.
Et puis après, il y a eu la découverte du monde du travail, notamment avec l'association aux personnes âgées, l'APA. Vous pouvez nous en parler un peu ?
Avec plaisir. J'ai eu la chance d'y rentrer étant jeune, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'aurais moi-même bientôt besoin de quelqu'un. Parce que se soulever tous les matins quand on ne peut plus, se donner un coup de gant de toilette, se laver la figure, redevenir une personne digne, ce n'est pas simple. Et moi, j'ai eu la chance de le faire très jeune, quand on est en pleine possession de tous ses moyens et d'avoir le sourire. Et ils m'ont appris tellement de choses, parce que ça m'a permis à moi de me rendre compte qu'on a un laps de temps sur ce monde, dans ce petit monde, et qu'il faut le rendre le plus joli possible. Et je peux vous dire que moi, mes petits vieux, j'y tiens. Et je veux absolument pas qu'on leur fasse du mal. Et si je peux me permettre de profiter de votre micro, de vous dire que ça fait 3 ans que mes retraités, ils attendent un petit quelque chose sur leur retraite, ben, il serait peut-être l'heure qu'on leur amène ce minimum de dignité, parce qu'ils ont bossé pour nous, ils ont laissé de jolies racines. Malheureusement, nous, on laisse pas de belles choses pour eux.
Et puis après, il y a eu la rencontre avec Maurice, l'auberge des Ménétriers, l'envie d'être maman aussi. À ce moment-là, vous pensiez que la vie commençait à vraiment s'ouvrir à vous ?
Ben oui, parce que le restaurant, c'était surtout le lien, c'était les autres. Alors c'est sûr que ça passait par l'assiette, qui est un des meilleurs moments de lien, je pense. Et c'était quelque chose qui nous allait bien tous les deux, parce qu'on était aussi expressifs, on avait autant besoin tous les deux des autres que de nous-mêmes. Et ça a été une grande déchirure quand on a arrêté. Je peux vous dire que c'était pas facile, mais il fallait faire un choix. Et j'avais fait une fausse couche, et puis on me prédisait pas 3 enfants, on me disait une et rien. Donc il fallait prendre la bonne décision. Dieu a voulu, et je le remercie pleinement, d'en avoir eu 2 de plus. Mais j'en aurais voulu une flopée. Je vous dis franchement, une grande famille aurait été pour moi. Et je disais toujours que si j'en avais eu 6, si mon amour m'aurait ramené 6 pièces rapportées, on aurait eu de grandes et belles tablées. J'essaye encore aujourd'hui d'avoir plein de copains, plein de copines pour faire de grandes et belles tablées. C'est ça l'important dans la vie, c'est le partage. Tout ce qu'on partage est donné. Mais ce qu'on ne partage pas est vraiment, vraiment perdu.
Et puis après, malheureusement, vous vous retrouvez seul avec vos trois enfants. C'est un peu le début de la précarité, mais quand même, vous réagissez toujours avec force et courage. Comment vous avez réussi à gérer et à surmonter là où beaucoup, justement, n'y arrivent pas ?
Grâce aux autres, grâce à tous les autres, parce que tous les autres, quand ils ont vu ma détresse, je ne parlais pas beaucoup à l'époque, mais je pense qu'ils ont compris que j'avais besoin de l'autre. Donc ils m'ont emmenée dans toutes ces belles associations qui s'appellent Terre des Hommes, qui s'appellent Habitat Humanisme, qui s'appellent Abbé Pierre, qui s'appellent Emmaüs, qui s'appellent Les Bouchons d'Amour. Et dans toutes ces associations, j'ai trouvé du lien et des personnes à l'écoute, parce qu'ils avaient vécu de belles choses et de moins belles choses. Et ils avaient déjà un vécu, donc ce vécu, ils l'ont partagé avec moi. Et c'est toutes ces associations-là que je veux mettre en avant, parce qu'aujourd'hui en France, il y a 1,5 million de personnes toutes les semaines dans toutes ces assos bénévoles, et à aucun moment on ne leur dit merci. On leur demande d'être plus professionnels que les professionnels, sans salaire, et on oublie la première des choses, c'est de dire merci à ces gens-là.
Que signifie également le MNCP ? Parce que je crois qu'il y a pas mal d'associations qui sont groupées dedans.
Ah, on est plein. Je crois qu'il y a une quarantaine qui gravitent autour. Donc le MNCP, c'est le Mouvement National des Chômeurs et des Précaires. Et je vais vous donner un scoop. J'ai la joie de vous dire que depuis 1984 qu'ils existent, ils n'ont jamais été reçus par le ministre du Travail. Et je sais que maintenant, un rendez-vous est prévu. Et vous ne pouvez pas savoir ma fierté. Parce qu'on ne peut pas prendre de décision pour des gens quand ils ne sont pas la table des négociations. Et c'est ce que j'ai expliqué à nos députés, c'est qu'il y a trop de députés qui ont fait les grandes écoles dans notre hémicycle. Il faudrait peut-être faire rentrer des ouvriers, des PMI, des PME, des salariés, des grands et des petits salariés, parce que ça irait beaucoup mieux. Il faudrait peut-être revoir à la base notre hémicycle.
Qu'est-ce qui s'y passe exactement dans ce mouvement ? Comment vous organisez un peu toutes ces aides ?
Ben écoutez, nous, on a toutes les semaines, tous les lundis, on commence notre lundi au début de semaine par une réunion. Donc tous les gens qui sont dans la précarité, qui ont des difficultés avec leur dossier, avec leur papier, avec la recherche d'emploi ou juste un moment d'écoute pour poser leur sac, pour poser leur misère, pardon, ils savent qu'on est là le lundi matin. Et en fonction de tous ceux qui viennent, nous, on court toute la semaine parce qu'on a un réseau. On sait que pour un problème de dossier, on peut aller vers cette personne-là. Pour un problème d'aide, on peut aller vers celle-là. De ce côté, il y aura peut-être un soin. De l'autre côté, et c'est comme ça qu'on arrive à faire. Seulement, le problème maintenant, c'est que toutes les subventions qui ont été accordées plus ou moins facilement dans les années avant, vu qu'il manque de l'argent, vu que les entreprises ferment, ben, il y a moins de cotisations, ce qui est logique. Mais ce n'est pas de notre faute. La misère est grandissante. Alors moi, j'invite tous les gens qui ont un peu plus qu'ils n'ont besoin, mais qu'ils n'oublient pas que l'autre, ils l'ont besoin aussi. Parce qu'ils ont besoin du petit comme nous, on a besoin du grand. Soyons un peu plus solidaires. Nous sommes environ 64 millions en France. La France est belle, elle a de la place. Donc partageons. Pourquoi soyons si mauvais ? On n'emmènera rien. La seule justice, à mon avis, c'est que nous arrivons tout nus et nous repartirons tout nus. Et ça même si on est président de la République.
Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous constatez au travers de votre courage, de votre ténacité, de votre générosité, votre dévouement, que vous avez suscité aussi des nouvelles vocations chez des personnes qui n'auraient pas osé peut-être avant se montrer et qui maintenant ont le courage, comme vous l'avez eu ?
Ah, je suis persuadée, c'est le plus beau cadeau de la vie. Les hommes dans notre association ne prenaient pas la parole, ne venaient pas aux manifestations, nous donnaient un coup de main avant, mais n'aimaient pas être en présence des journalistes, des télés, être sur le devant de la scène. Et ça, c'est le cadeau qu'ils me font maintenant. Parce que je leur dis à chaque fois, si moi j'ai pu le faire, avec tout ce qui est accroché à mes chaussures, avec toutes mes valises très lourdes, vous pouvez être avec moi. Et ça, maintenant, c'est un cadeau. Et je trouve, c'est un peu triste à dire, mais nous sommes toutes les semaines, au moins, dans un article d'un journal, où on parle de nous. Nous existons, nous sommes des citoyens. Parce qu'à la base, nous sommes quand même toujours, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, quelles décisions ils prennent, nous sommes tous des citoyens. Ils ont besoin de nous pour nos votes, ils ont besoin de nous pour la TVA. Nous, on a besoin d'être dignes. Alors s'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, alors mettons un revenu en place pour que tout le monde ait un minimum de dignité. Après, s'il y a des gens qui veulent s'épuiser au travail, je ne vais pas leur en interdire, bien qu'ils y aillent, que ça leur fasse du bonheur et du plaisir. Mais déjà que je ne supporte plus ces gens qui sont dans la rue. Ils ont le droit de se laver, ils ont le droit d'avoir un toit. Et ça, c'est mon combat à moi.
On est toujours en compagnie d'Isabelle Maurer, invitée sur le 14e Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, pour son livre « Je ne baisserai plus les yeux ». On évoque maintenant avec elle son engagement politique lors des dernières élections européennes. «
Vous avez également été choisi comme tête de liste aux dernières élections européennes dans la région Grand Est par le parti Nouvelle Donne, qui est le parti un peu héritier du collectif Roosevelt et qui rassemble également le sociologue et philosophe Edgar Morin, l'urgentiste qui travaille à Charlie Hebdo Patrick Peloux, ou encore le producteur et auteur Bruno Gassiot. Mais quel était votre programme et comment vous avez affronté ça ?
Ah ben ça c'était un joli cadeau de la vie également, parce qu'un parti qui sortait de terre, qui naissait, avec des idées de solidarité, de partage et surtout qui axait ses missions sur des choses réelles, il y a 36 milliards sur les fonds de pension qui sont là. On peut les mettre dans le logement et on peut reloger les gens, on peut faire des tas de choses. Donc à nous un peu peut-être de jouer aux banquiers, de cliquer, mais c'est par là qu'il faut commencer. Séparer nos banques du capital et du privé, c'était tout à fait ce qu'il faut le faire. Remettre à l'ordre du jour l'humain, la santé, les écoles, nos lumières. Quand vous allez maintenant dans un service public, il n'y a plus que marqué public sur le service, mais c'est tout ce qui est. Donc j'ai trouvé que c'était un bel honneur que des gens aussi intentionnés, qui avaient déjà de belles vies, eh ben, ils ont su m'aider à avancer. Et je peux vous dire qu'on a fait une très belle campagne, même que j'ai pleuré très fort parce qu'il fallait faire 5% pour être remboursé des frais. Je suis arrivée à 2,48, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec le recul, je suis contente. Parce que les gens que je rencontre, ils étaient contents de me trouver. Parce que j'ai été, moi, dans leur campagne, j'ai écouté les paysans, j'ai vu leurs vaches, j'ai vu leurs problèmes, qu'ils n'arrivent pas à avoir de terrain, qu'ils ont des problèmes de quota laitier. J'ai compris des tas de choses, j'ai appris et j'ai mûri. Et je peux que les remercier d'avoir été là. Et je peux leur garantir que je serai encore là. Jusqu'à la fin, je serai avec eux. Parce que mon monde à moi, c'est le petit Jean. Et il n'y a rien de plus joli que les petites gens. Parce que pour devenir une grande personne et être un haut de ce monde, il faut déjà être une petite personne.
Alors, comment vous avez travaillé vos propositions et qu'est-ce que vous proposiez que les autres partis, éventuellement, ne proposaient pas ?
Ben écoutez, déjà, je pense qu'ils avaient besoin d'apprendre et de comprendre des choses et que nos politiques ne vont pas assez à l'avant. Ils font des textes qu'ils vont eux-mêmes pas des fois vérifier sur le terrain si dans les actes ils peuvent être faits. Nous, on a cette démarche-là intérieure. On a été vers les gens et on leur a dit quelle serait pour vous demain votre meilleure existence. Et je trouve que Nouvelle Donne avait toute sa place. Alors maintenant, je suis un peu en retrait avec Nouvelle Donne. Je suis ravie de rencontrer Bruno, Pierre. J'ai été à la conférence de Suzanne Georges-Cernet. La seule chose, c'est qu'il y a partout dans tous les mouvements des gens qui cherchent à se placer. Et ça, ça ne me va pas. Moi, je fais tout bénévole. J'ai sillonné la France bénévolement. J'ai mangé des sandwichs, j'ai couché chez des gens, dans une étable, dans tout ce qu'on voulait. Parce qu'il faut rester humble, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, mon but, c'était pas d'aller en politique pour m'enrichir, mais c'était pour que le plus grand nombre s'enrichisse intellectuellement et voit autre chose. Tout le monde a droit à un repos, à un sourire. Et je suis sur le point de travailler avec le MNCP, donc le mouvement national chômeurs et précaires. On aimerait monter des maisons qui vont s'appeler des maisons pour tous, où les familles en détresse peuvent venir poser leurs valises le temps qu'ils ont besoin de se remettre à flot. Et ça n'existe pas. Il y a des petites structures qui font des petites choses, mais qui n'englobent pas tous les problèmes. Nous, on a envie d'englober l'humain dans sa globalité, parce que le monde n'avancera pas sans l'humain, ou alors il n'y aura plus de monde.
Tout ce que vous avez enduré, est-ce que finalement, paradoxalement, c'est pas un peu quelque chose de plutôt positif qui vous a fait mieux comprendre le côté négatif de la société dans laquelle on vit et de l'affronter de haut ?
Bah écoutez, moi je vais vous dire, c'est que des belles rencontres et des gens qui ont pris le temps. Parce qu'à mon niveau, ben on n'a pas beaucoup de culture. Moi, j'ai une lacune de lecture, je ne peux pas vous dire, à 52 ans. Maintenant, je dévore. Dans tous les trains, j'ai 3-4 livres, je peux vous dire que je dévore, car je n'ai jamais eu le temps. J'ai été salariée. Quand vous faites 8 heures dans un coin, 4 heures dans un autre et 2 heures ailleurs, vous rentrez chez vous, vous avez le ménage et les enfants, on n'a plus l'énergie nécessaire pour lire. Et je regrette mes lacunes. Mais dans l'autre sens, parce qu'il y a toujours un bon côté, un mauvais côté. Je me dis que si j'avais été un énarque, j'avais fait des études, et la France, elle est dans cette catastrophe aujourd'hui, je serais pas fière d'être un énarque. Donc finalement, mon inculture me va très bien, parce que l'essentiel, c'est notre bonheur. Et celui-là, on n'en parle jamais. On nous demande que d'être productif. Les chiffres, les taux, les marges, c'est tout ce qu'on nous demande. Mais on a juste oublié que la vie, au départ, c'est le bonheur et le partage.
J'ai encore deux petites questions. Aujourd'hui, évidemment, on est à Arras sur le Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Vous avez rencontré des gens, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez pu discuter avec eux ? Est-ce qu'ils vous ont écouté ? Est-ce que vous les avez convaincus ?
Alors écoutez, déjà, ils étaient formidables. Ils ont beaucoup discuté parce que je leur pose beaucoup de questions. J'ai bien évidemment eu beaucoup de gens dans la détresse, des mamies qui me disaient que les petits-enfants ne travaillaient pas, que leurs filles avaient du mal à joindre les deux bouts, qu'eux-mêmes, en tant que retraités, les joignait pas les deux bouts. Mais au moins, on a eu cet échange. Et il n'y a pas ces salons du livre, il n'y a plus ces échanges. Les gens, ils peuvent plus parler. Alors, ce qui m'attriste le plus, c'est les petits jeunes qui n'arrivent pas à rentrer dans la vie de travail, qui n'arrivent pas à mettre un pied. Et sans ce pied, sans cette feuille de paye, ben, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de formation, il n'y a surtout pas de culture. Donc, j'aimerais que nos grands, aujourd'hui, réfléchissent si c'est ça qu'ils veulent pour eux demain. Parce qu'en attendant, c'est nous, les petites gens, qui faisons qu'eux, ils restent des grandes personnes. Et ne laissez personne sur le carreau. Parce que ce carreau, un jour, il va vous retomber dans la vitrine et ce jour-là, il fera mauvais d'être derrière la vitrine.
Et puis enfin, vous avez un livre maintenant. Est-ce que vous avez déjà peut-être une idée d'en écrire un deuxième ?
Alors écoutez, pour le moment, pas du tout. J'ai eu plusieurs propositions, mais je veux aller au bout de la lecture de celui-là parce que c'est un joli cadeau que m'a fait Julia. Parce qu'on ne se connaissait pas, on s'est découvert, on a travaillé une année grâce aux arènes, parce qu'il faut quand même leur dire que pour travailler, il faut des moyens. Et quand on n'a pas de moyens, ben, on ne peut pas faire grand-chose. Les arènes nous ont donné les moyens de faire un beau livre. Et Julia, elle a su m'écouter et faire ressortir dans ce livre, parce que moi, j'ai fait un dictionnaire. J'avais tellement de choses à vous raconter. Je ne sais pas enlever à la cuisine, on peut rajouter un peu de sucre, on peut rajouter un peu de sel, un peu de poivre, mais enlever, c'est très difficile. Et Julia, elle a su mettre en valeur ce qu'il fallait qu'il soit mis en valeur. Et si j'avais la chance d'en refaire, je pense que je demanderais d'abord à Julia si elle n'a pas envie d'en refaire un avec moi, parce que ça a été un joli, joli parcours. Et je remercie vraiment les arènes qui nous ont permis de faire ce beau travail. Et tous les gens que je rencontre grâce à ça, qui m'apprennent des choses, qui me donnent des tuyaux, qui me disent, vous savez Isabelle, par là on peut avoir des habits, par là on peut aller se faire soigner, par là vous pouvez loger des gens, ben, c'est grâce à ce livre, parce qu'ils osent me parler à travers ça. Et ça, je dis merci à tout le monde et surtout merci à vous de me faire cet honneur aujourd'hui parce que j'en mérite pas tant, mais je sais au moins vous remercier. Et je dirai à tous mes Aurinois et tous mes Barinois, vous m'avez fait un bel honneur et je vous en remercie vraiment.
Oh, bah si, vous le méritez, Isabelle Maurer. Et merci beaucoup à vous d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions.
Ça, c'est
merci.
Vraiment la seule richesse que j'ai, c'est mon temps. Alors merci à vous et bonne continuation. Prenez tous bien soin de vous.
C'était une interview d'Isabelle Maurer autour de son livre « Je ne baisserai plus les yeux » paru aux éditions Les Arènes. Elle était invitée sur la 14e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras, organisé par l'association Colère du Présent.